C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous sommes tous drogués. À quoi ? Aux énergies fossiles. Pourquoi fossiles ? Parce que le pétrole, le charbon et le gaz sont le résultat de la décomposition sur des millions d'années des forêts et des micro-organismes qui recouvrent la planète. Or, depuis plus de 150 ans, nous les traquons partout pour irriguer notre électricité, nos moyens de transport et notre agriculture. Mais les gisements peu chers et faciles à exploiter se tarissent et leur combustion dégage des gaz à effet de serre qui dérèglent notre climat. Il va donc falloir nous désintoxiquer. Mais comment s'y prendre ? Nous irons au Chili où l'énergéticien Engie tente une transition énergétique sous le feu des critiques. Avons-nous commencé à nous sevrer ? Pas vraiment. Écoutez le tableau dressé par notre invité et vous verrez que la cure de désintoxication ne fait que commencer.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Bonjour Francis Perrin.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et chercheur associé au Policy Center for the New South, un centre de réflexion basé à Rabat, au Maroc, que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
Eh bien, je travaille sur les problématiques énergétiques depuis fort longtemps, parce que c'est un travail et en même temps une passion. Je suis convaincu de l'importance de ces questions au niveau mondial, notamment en termes géopolitiques. Je travaille plus particulièrement sur le pétrole et le gaz naturel, mais avec une vision globale sur l'ensemble des énergies. Je suis indépendant professionnellement, mais comme vous l'avez dit, je travaille avec un certain nombre d'organismes de façon assez régulière, dont l'IRIS et le Policy Center for the New South.
Alors, le Policy Center for the New South, c'est quoi exactement ?
C'est, comme on dirait en bon français, c'est un think tank, hein, donc un centre de réflexion, vous avez eu raison de le dire en français, sur les grandes questions stratégiques mondiales, avec un accent particulier mis sur les pays du Sud, notamment, bien sûr, l'Afrique, et le bassin atlantique, donc le triangle Afrique-Amérique-Latine-Europe.
Alors, en quoi est-ce que l'énergie est un sujet majeur en ce début de XXIe siècle ?
Je dirais que l'énergie est toujours un sujet majeur et qu'elle l'est encore, bien sûr, en ce début de XXIe siècle. L'énergie, c'est le carburant de l'économie mondiale. Sans énergie, nous n'avons pas de transport, à part la marche à pied et le vélo, quand ce vélo n'est pas électrique d'ailleurs. Nous n'avons pas d'industrie, parce que nous n'avons pas de force motrice, nous n'avons pas de chauffage, nous n'avons pas de production de froid. Et comment est-ce qu'on conserve des vaccins, sinon en produisant du froid, donc en consommant de l'énergie, etc. Donc l'énergie, c'est absolument fondamental pour la vie de milliards de personnes à travers le monde. Le monde ne peut pas se passer d'énergie, il ne s'en est jamais passé, il ne s'en passera jamais. Par contre, il y a des évolutions importantes en termes du bouquet énergétique mondial. Certaines sources d'énergie vont décliner, d'autres vont monter en puissance. Mais au début de ce siècle, comme depuis des siècles et comme pendant les siècles à venir, l'énergie restera un aspect fondamental et stratégique de la vie économique et de la vie géopolitique mondiale.
Alors justement, vous parliez du bouquet énergétique mondial. Après plus de 150 ans de découvertes, le monde est toujours assoiffé de pétrole ?
Le pétrole est devenu, au cours du XXe siècle, la première énergie mondiale. Il a doublé le charbon et il est encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'énergie la plus consommée dans le monde, devant le charbon numéro 2 et le gaz naturel numéro 3, et après les énergies renouvelables, hydroélectricité et autres énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien et la biomasse. Donc nous sommes effectivement dans l'ère du pétrole et nous sommes toujours dans un monde, je reprends votre expression qui me semble tout à fait juste, assoiffé de pétrole. La preuve en est, c'est que si l'on enlève l'année 2020, année tout à fait exceptionnelle du fait de la pandémie de Covid-19 et de la récession économique mondiale générée par cette pandémie. Mais si nous prenons les années 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nous avons eu chaque année une augmentation de la consommation mondiale de pétrole. Ce qui montre bien qu'une économie mondiale qui tourne à plein régime, notamment du fait du poids des pays émergents et en développement, a besoin de consommer plus d'énergie, de façon générale, et plus de pétrole en particulier, parce que le pétrole est aujourd'hui la seule énergie dont le monde ne peut pas se passer, au moins pendant encore un certain temps, du fait des transports routiers, aériens, maritimes, et du couple pétrochimie-matière plastique.
Alors, quelle est la répartition, justement, des consommations des énergies fossiles dans le monde aujourd'hui ?
Alors, les pays industrialisés, développés, évidemment, sont de très gros consommateurs d'énergie et de pétrole. On pense notamment à Union européenne, États-Unis, Amérique du Nord, Japon. Mais les pays émergents et en développement consomment de plus en plus d'énergie et de pétrole avec le poids considérable de l'Asie. N'oublions pas que nous avons quand même la Chine et l'Inde qui représentent à eux deux pas loin bientôt de 3 milliards de personnes et avec, donc en tout cas avant l'année 2020, une croissance économique et un développement économique extrêmement fort. Donc de plus en plus, ce sont les pays émergents et en développement qui tirent à la hausse la consommation pétrolière et énergétique mondiale. L'Union européenne ne consomme pas plus de pétrole qu'il y a une dizaine d'années. Mais la Chine, oui. L'Inde, oui. D'autres pays en Asie, oui. L'Amérique du Sud également. Le Moyen-Orient et l'Afrique, bien sûr, et ainsi de suite.
Alors, la dimension géopolitique de l'énergie est aussi cruciale au niveau mondial. Il y a les pays producteurs et les pays consommateurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est la base de la géopolitique actuelle.
C'est fondamental. À partir du moment où on sait, et le monde entier le sait, que nous ne pouvons pas nous passer l'énergie, l'énergie est donc forcément un secteur stratégique. Il n'y a pas un État dans le monde qui va vous dire « l'énergie, je m'en moque, je ne m'en occupe pas ». Pourquoi ? Parce que c'est une nécessité absolue, c'est important pour leur population, pour leur économie, pour leur développement industriel, pour leurs entreprises, pour leur activité, pour une partie de leurs emplois. Par conséquent, voilà, on pourrait dire évidemment la même chose de l'eau. L'énergie n'est pas la seule question stratégique dans le monde, mais elle est l'une des grandes questions stratégiques. Et cela veut dire que les États s'en emparent, tous les États, et que par conséquent, l'énergie n'est jamais un problème uniquement que l'on va traiter sous un angle économique, commercial, financier, industriel, bien sûr on va le faire, mais aussi sous un angle géopolitique, de par l'implication des États, qu'ils soient producteurs ou exportateurs d'énergie, par exemple de pétrole, qu'ils soient importateurs et consommateurs d'énergie, par exemple de pétrole.
Alors ça régit les rapports entre les pays, ça donne une place de choix aux États-Unis à la Russie notamment, et puis aux pays du Moyen-Orient ?
Tout à fait. C'est un des éléments de base pour comprendre la géopolitique mondiale, l'énergie et notamment le pétrole en tête. Et bien sûr, cela donne des atouts dans le jeu de pays qui ont d'importantes réserves, disponibilités en énergie, qui exportent de l'énergie au-delà de leur consommation nationale vers le reste du monde, approvisionnement dont nous avons besoin pour que l'économie mondiale continue à tourner en plein régime, à plein régime, et nous en aurons besoin particulièrement en 2021 avec une forte reprise économique mondiale suite à la récession de 2020. L'économie mondiale tourne très fort, hein. On a vu les chiffres du produit intérieur brut des États-Unis pour le premier trimestre, est supérieur à 6% de croissance. La France annonce 5 à 6% de croissance pour l'année 2021, ce qui n'est pas fréquent, alors que normalement on avait une croissance de 1 à 2% dans les dernières années. Donc ce sera évidemment encore plus vrai en 2021. Et bien sûr, les pays importateurs d'énergie, notamment de pétrole, développent des politiques visant à sécuriser leurs approvisionnements dont ils ne peuvent pas se passer pour l'instant. Il y a évidemment l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, 13 pays, ce qu'on appelle souvent l'OPEP+, 23 pays, 13 pays OPEP, plus 10 pays non-OPEP, dont la Russie. Il y a le jeu des grands acteurs énergétiques industriels, dont les grandes compagnies pétrolières privées, compagnies pétrolières nationales, donc étatiques. Tous ces acteurs ont un rôle, directement ou indirectement, dans la géopolitique mondiale, du fait du poids de l'énergie dans l'économie mondiale.
Alors, quelle est la place du continent africain dans ce tourbillon de géopolitique mondiale ?
L'Afrique a un potentiel important en termes d'énergie. Pétrole et gaz naturel, donc les hydrocarbures. Charbon, c'est moins important, c'est plus l'Afrique australe, notamment l'Afrique du Sud. Évidemment, un potentiel très grand en termes d'hydroélectricité. que l'on pense par exemple à la République démocratique du Congo, potentiel absolument fantastique, et un potentiel important en termes d'énergie renouvelable, notamment solaire, éolienne, et bien sûr la biomasse, l'utilisation donc de cultures à des fins de production d'énergie. Un potentiel considérable, encore largement sous-exploité, ce qui veut dire que de nombreuses entreprises et de nombreux États qui sont assoiffés d'énergie regardent le continent africain avec les yeux de chimène, en sachant que ce continent a un potentiel considérable dans les différentes sources d'énergie que j'ai évoquées. Et on voit par exemple, pour ne donner qu'un exemple, l'intérêt des compagnies pétrolières nationales chinoises pour le pétrole et le gaz en Afrique. Elles sont présentes en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, depuis des années, y compris dans des pays présentant un risque politique assez élevé, voire très élevé. Citons par exemple Soudan, Soudan du Sud, Mozambique, parce que justement l'État chinois demande à ses compagnies pétrolières nationales d'aller partout là où il y a des ressources importantes d'énergie, notamment d'hydrocarbures.
Alors, malgré l'accord de Paris qui a été ratifié par 183 pays, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter et c'est essentiellement dû justement à la combustion de ces énergies fossiles.
Tout à fait. Il est clair que l'utilisation, donc production et consommation d'énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, charbon, gaz naturel, est la principale source de développement des émissions de gaz à effet de serre à travers notamment le CO2, donc gaz carbonique ou dioxyde de carbone, et le méthane qui est lié au gaz naturel. Donc c'est un défi énorme au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. C'est ce que l'on appelle souvent la transition énergétique, un processus long, coûteux, difficile, qui consiste en gros à terme à faire baisser la part des énergies fossiles dans le bouquet énergétique mondial et à faire monter en puissance des énergies non carbonées, ce qui veut dire concrètement énergie renouvelable, y compris hydroélectricité et énergie nucléaire, au moins dans certains pays. Mais ce processus prendra du temps parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, les trois énergies fossiles par ordre décroissant, pétrole, charbon, gaz naturel, représentent plus de 80% de la consommation mondiale d'énergie. Donc on conçoit aisément que cette transition énergétique ne peut pas se faire ni en 6 mois, ni en 1 an, ni en 5 ans, ni en 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer maintenant, bien sûr. Il faut commencer maintenant de façon très énergique, mais il faut savoir que même en commençant maintenant, et en fait ça a déjà commencé heureusement, le processus, l'ensemble du processus, prendra du temps, pour être plus précis, de l'ordre de quelques ou plusieurs décennies.
Alors justement, je vous propose d'aller au Chili, où les énergies fossiles causent aussi d'autres formes de pollution, hein, pas seulement les émissions de gaz à effet de serre. La reporter Marion Esnault est allée pour nous dans le nord du pays, à Mérillones, une petite ville dans le désert d'Atacama, située au bord du Pacifique. Il y a 30 ans, Mérillones, c'était un paradis pour les amateurs de pêche et de paysages préservés. Aujourd'hui, c'est une cité hyper industrielle et largement polluée, ce que la société civile chilienne nomme une zone de sacrifice.
C'est à Mérillones que je vous emmène au nord du Chili, en pleine période de Noël, dans le somptueux désert d'Atacama, le plus aride du monde. Et c'est là que vivent quelques 15 000 âmes qui ont assisté à la transformation petit à petit de leur pueblo en zone de sacrifice. Ici, il y a moins de 30 ans, c'était le paradis des pêcheurs. Aujourd'hui, malheureusement, on n'y trouve plus grand-chose à la criée aux poissons. Qu'est-ce que vous avez là ? Mais finalement, qu'est-ce que c'est une zone de sacrifice ? Le concept a été popularisé par la société civile chilienne et pour résumer, en gros, ce sont des zones industrielles qui se sont installées au pied de 5 villes côtières chiliennes. Et Mérillones est l'une de ces 5 villes. Ce qu'elles ont en commun, les centrales à charbon. Mérillones, dont le doux nom signifie « moule », ce qui nous donne une petite idée de l'identité historique du territoire, accueille à elle seule 7 centrales à charbon, dont 5 qui appartiennent à la multinationale française Engie, dont l'actionnaire principal, il faut le rappeler, reste l'État français. Et ce n'est pas tout. Les habitants doivent aussi cohabiter avec des centrales à gaz, une usine de fabrication d'explosifs pour les mines, l'industrie de la pêche et un port industriel gigantesque qui est le principal axe d'exportation de métaux, minéraux et terres rares extraits du désert. Alors qu'est-ce que c'est vivre dans une zone de sacrifice finalement? Qu'est-ce qu'on sacrifie? Qui on sacrifie? Pourquoi? Comment? Au bénéfice de qui? Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Manuel Carvajal qui a passé toute sa vie à Mérionès et qui a vu les industries s'installer sur ses plages de sable blanc. Son oncle, qui a été maire de Mérionès pendant 25 ans, a ouvert les portes aux entreprises qui ont profité de la forte croissance du Chili dans les années 90, après la dictature de Pinochet, pour placer leurs pions dans une économie néolibérale qui, par définition, réduit au maximum la régulation de l'État. Aujourd'hui, Manuel a 38 ans. Il est coordinateur d'une association locale qui participe à une campagne nationale intitulée « Ciao Carbone » qui est coordonnée par plusieurs ONG qui se bagarrent pour la fermeture des centrales à charbon. En 2017, le Chili en comptait 28. Aujourd'hui, il en compte 23. Engie, la multinationale française, en opère 6. Elle vient d'en fermer 2, les plus anciennes, et elle s'est engagée à en fermer 4 supplémentaires d'ici à 2024. Mais elle en a aussi ouvert une nouvelle en 2019. Les ONG de Ciao Carbone exigent une fermeture définitive et non une reconversion de toutes les centrales à charbon. Tout comme Manuel, que j'ai rencontré chez lui à Mérionès. Manuel ! Allô Manuel !
Hola Marion !
Ustay ! Comment tu vas ? Oh, Mérionès, l'amour, cette chanson.
J'étais en train d'écouter de la musique.
Et vamos.
On y va.
On va par là d'abord.
On marche en direction de la mer. Où que tu sois dans la baie de Mérionès, tu vois la mer.
Et toi, tu vis au bord de la mer en réalité?
Oui, je vis à environ 500 mètres de la mer. Et malheureusement, à environ 700 mètres des entreprises, là où commence la zone industrielle. On descend à la plage?
Mira.
Regarde, de là où on se trouve sur la gauche, on voit le dernier bastion qu'il reste de la biodiversité de Mérionès, là où c'est moins pollué. Là-bas, c'est splendide. On voit des baleines, des pingouins de Humboldt, des dauphins. Non, il y a encore de la vie. La baie n'est pas encore complètement morte. Un peu plus près de nous, on voit la ville où il y a encore des traces de l'industrialisation. Il y a le quai de l'industrie de la pêche, et puis le quai où sont les pêcheurs traditionnels. Et de là où on se trouve, si on regarde droit devant nous, on voit les grands bateaux de pêche. On se rend compte que c'est une baie qui accueille beaucoup de bateaux, qui viennent charger et décharger tout type de produits. Pas seulement le charbon. Et là-bas, sur la droite, c'est toute la zone industrielle. Et la zone industrielle, c'est trois fois la surface de la ville de Mérionès.
Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, l'industrialisation de la baie et l'arrivée des centrales à charbon d'Engie?
Clairement, ça a ruiné nos vies, parce que là où s'est implanté Engie, c'était notre terrain de jeu quand on était gosse. On allait jouer sur la plage, on allait faire du surf, on s'amusait comme des fous. Et ce n'était pas seulement l'espace privilégié pour moi ou pour ma famille, mais pour tous les habitants de Mérionès. Parce qu'en plus de se baigner ou de surfer, on pêchait des fruits de mer à la main, comme ça, et on les mangeait sur la plage. On ouvrait les coquilles Saint-Jacques, on leur mettait un peu de citron, et on les mangeait là, comme ça, dans l'instant. Et puis, tout a commencé à disparaître. Donc en gros, ils nous ont enlevé notre terrain de jeu et les aliments qui nous nourrissaient. On s'en est pas rendu compte tout de suite, bien sûr. On s'en est aperçu plus tard que toute la vie de ces lieux disparaissait, petit à petit. Non, clairement, il y a un avant et un après l'industrialisation. La première fois que j'ai entendu parler de zone de sacrifice, c'était en 2017. Parce qu'avant, oui, c'était une zone qui était impactée au niveau environnemental, mais on n'utilisait pas encore le concept de zone de sacrifice. Et il faut comprendre que ces concepts ne sont pas scientifiques. C'est un nom qu'on donne à une zone qui est saturée d'usines et qui sacrifie les personnes qui vivent sur ces territoires. pour un développement économique. Et là, j'ai compris ce que c'était une zone de sacrifice et que ça correspondait 100% à ce qui se passe à Mejillones et aussi à Tocopilla, qui est très proche. Et ici, ils sacrifient la vie des personnes pour l'économie.
Et vous en tirez des avantages, vous, les habitants de Mejillones, de ce bien économique ?
Mira, la verdad es que lamentablemente no los beneficia tanto.
La vérité, c'est que malheureusement, on n'en tire pas beaucoup de bénéfices. Ces derniers temps, et pas seulement à cause de la pandémie, il y a un haut niveau de chômage à Mejillones, un manque de travail. Mais c'est compliqué. Ça ne devrait pas être comme ça dans une ville qui est autant industrialisée. On a tellement d'entreprises. Personne ne devrait être sans travail. Parce que si tu sacrifies la zone, la vie des personnes, la biodiversité, la mer, l'air, tout, au moins donne du boulot aux gens. Mejillones est une baie très calme et ça a attiré des projets de terminaux de tout type. L'industrialisation nous a enlevé nos plages et il faut qu'on cohabite avec eux, malheureusement. Mais ce n'est pas une vie agréable. Ce n'est pas une vie normale, comme dans n'importe quelle autre partie du Chili.
Après la plage, Manuel m'emmène rencontrer les pêcheurs traditionnels. Clairement, ce sont eux les plus affectés par les dizaines d'usines et le port industriel qui se sont imposés dans la baie. Mais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elles se sont installées dans la baie ? Pour deux raisons principales en réalité. Parce que toutes les matières premières qui entrent, comme le charbon ou le gaz, ou toutes les matières premières qui sortent, comme le cuivre ou le lithium, sont chargées sur des cargos gigantesques qui importent et qui exportent par voie maritime. Et ensuite, parce que toute centrale thermique a besoin d'énormes quantités d'eau pour refroidir les turbines qui génèrent l'électricité. Et ces énormes quantités d'eau, elles sont pompées et rejetées dans l'océan Pacifique.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous sommes dans le nord du Chili, dans la petite ville de Mejillones, située dans le désert d'Atacama au bord du Pacifique, avec la reporter Marion Esnault. Il y a 30 ans, Mejillones c'était un paradis pour les amateurs de pêche et de paysages préservés, mais aujourd'hui c'est une cité hyper industrialisée, largement polluée. C'est ce que la société civile chilienne appelle une zone de sacrifice.
Francisco me raconte qu'il pêche depuis plus de 40 ans à Mejillones. Jusqu'au début des années 2000, il travaillait tous les jours, toute l'année, sans sortir de la baie. Aujourd'hui, il pêche à peine 4 mois par an, il doit parfois naviguer 4 à 5 heures et surtout, il a dû se doter d'un bateau plus résistant à la haute mer. Francisco est l'un des derniers pêcheurs artisanaux de la baie de Mejillones. C'est un vrai résistant qui essaie tant bien que mal de développer une activité touristique en complément de la pêche. Mais malgré la beauté de la baie entre désert et océan, attirer les touristes dans une zone industrialisée, c'est pas facile.
Esta bahía era una de las bahías más ricas del norte. Desde la punta hacia la otra extremo.
Cette baie était l'une des plus poissonneuses du nord. D'un extrême à l'autre de la baie, il n'y avait que des petits bateaux de pêche, les uns à côté des autres, à pêcher toute la journée. Et les autres à terre récoltaient à la main tout type de fruits de mer. On lançait les lignes, le courant les emmenait d'un bout à l'autre de la baie. On levait les lignes, elles étaient pleines. Et le lendemain, même chose, et ça, tous les jours. Et après, maintenant, rien, il ne reste rien. Petit à petit, la baie se meurt. Et nous aussi, dans un même temps.
Et comment tu vois le futur ? Ton fils, par exemple, lui aussi, il est pêcheur, non ?
Le futur, je le vois pas bien. Quand on me pose la question, je dis non, on pêche plus rien ici. Ils nous ont simplement enlevé notre espace de travail. Avant, il y avait des embarcations qui arrivaient de toutes les baies voisines. Tocopilla, Antofagasta. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des saisons où le poisson entre dans la baie, on pêchait à la main, directement des bateaux. Nous, on est de la mer. Il n'y a pas plus déprimant que d'aller travailler à terre. À mon âge, travailler à terre. Jamais. J'ai travaillé toute ma vie dans la pêche, mais je ne m'y retrouve plus.
Francisco n'est clairement pas très optimiste sur l'avenir de son métier et de son village. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Quelques compensations financières ont été obtenues au fil des années. Engie, par exemple, compense à hauteur de 500 euros par an et par pêcheur. Mais les relations avec la zone industrielle sont très sporadiques. La direction d'Engie elle-même reconnaît que leurs contacts avec les habitants de Mérionnais sont assez compliqués. La réalité, comme me l'explique Manuel à plusieurs reprises, c'est que la présence des usines est devenue complètement banale. Peu se pose la question de l'impact sur leur santé et sur l'environnement. Les enfants se baignent dans la baie, les adolescents sautent du pont et certains vont même faire du surf au pied des centrales à charbon. Côté impact sur la santé, on ne sait pas grand-chose. La seule étude sanitaire qui existe a été réalisée en 2019 par l'Université catholique du Chili, de manière indépendante, sans moyens réellement pour aller sur le terrain. Les résultats sont donc basés sur des données publiques qui indiquent clairement que dans les zones de sacrifice du nord du pays, il y a des taux anormaux de problèmes respiratoires, des maladies cardiovasculaires et des malformations chez les nourrissons. Côté qualité de l'eau de la baie, une étude a été réalisée en 2018 par le gouvernement régional et les résultats accablants indiquent des taux élevés de métaux lourds, de plomb, de zinc, d'arsenic ou encore de nickel dans la baie. L'étude confirme que les rejets des eaux usées de la ville et le rejet des eaux nécessaires au refroidissement des centrales thermiques ont un impact sur la dégradation de la baie. La bonne nouvelle côté centrale à charbon est qu'Engie a annoncé la fermeture de certaines de ses centrales. Prochainement, deux vont fermer à Mérionnais et deux autres à Tocopilla, un village à 150 km au destin similaire, mais qui a vu arriver les centrales à charbon bien avant Mérionnais. Son site industriel existe depuis plus de 100 ans. Deux de ces centrales, à Engie, ont été déconnectées en 2020. Elles doivent maintenant être démantelées. C'est Adolfo, le gérant du site, qui me fait faire le tour du propriétaire.
On y va, Marion ?
Allons-y, je suis prête.
Ça, c'est l'unité 12. Et ça, c'est l'unité 13. Elles sont jumelles. Et donc, tout ce qui se trouve derrière ces grands conteneurs bleus là-bas, tout doit disparaître.
Comment ça, tout doit disparaître?
C'est tout ce qu'on doit démanteler.
Et combien de temps ça va prendre?
Un an.
Et la dépollution, parce que démanteler, c'est la première étape, mais dépolluer, c'est une autre histoire, non?
Regarde, ici, on ne va pas avoir trop de problèmes pour dépolluer. Si tu regardes bien, ce n'est que du ciment au sol. On n'a pas pollué la terre. Alors oui, tu peux dire, au niveau atmosphérique, vous polluez. Mais par contre, les sols, eux, ne le sont pas. C'est complètement hermétique. Rien ne sort. Tout est cimenté, les lignes sont dans des tubes, l'eau, c'est de l'eau de mer. Rien n'est passé par la terre.
Même vous emmagasinez le charbon là-bas?
Non, mais avec le charbon, c'est différent. Ce qu'il va falloir faire, c'est enlever le charbon et creuser environ sur 50 cm pour arriver à la terre non souillée. Tu vois, on n'entend rien, parce que c'est hors service. Tout ça, il faut le démanteler.
Après le silence assourdissant du site industriel de Tocopilla, je suis retournée à Mérionnais pour visiter une des 5 centrales à charbon d'Engie, la nouvelle, guidée par Hernan et Sergio, les deux gérants du site.
Alors, à partir d'ici, on a les silos de charbon, les pulvérisateurs, les chaudières. Les gaz sortent de la chaudière et passent par le filtre à manche, les désulfurisateurs et la cheminée.
Et de toutes les centrales que vous avez ici à Mérionnais, c'est la plus récente, c'est ça? En quelle année a-t-elle ouverte?
La mise en route commerciale date de 2019.
Et concernant la fumée de la cheminée, si ce qui sort de la cheminée n'est que de la vapeur d'eau, où sont passées les émissions?
Pour commencer, tout ce qui sort du processus de la combustion sort par la cheminée. Et ce qui sort, c'est principalement de la vapeur d'eau. Et dans les gaz qui sont rejetés, il n'y a plus d'oxyde d'azote, de sulfure ou d'autres matériaux particuliers. Tout est surveillé et contrôlé.
Et donc une centrale comme celle-ci, qui est nouvelle, elle ne pollue pas?
Non, elle ne pollue pas.
Donc selon Engie, la nouvelle centrale ne polluerait pas, ou très peu. En tout cas, tout semble sous contrôle. Pour l'oxyde d'azote par exemple, ils injectent de l'ammoniac qui produit une dissociation chimique, laissant s'échapper par la cheminée seulement de l'azote et de l'eau. Même pour les émissions de CO2, Engie affirme les capter en grande partie avec du calcaire. Côté transition énergétique au Chili, la situation climatique et géographique est très favorable. Des lacs et des fleuves au sud qui pourraient alimenter en hydroélectricité jusqu'au nord et le soleil du nord qui pourrait compléter le mix. Mais la réalité est un peu plus prosaïque. Le plus avantageux économiquement est de produire avec le charbon, notamment la nuit quand le solaire ne fournit plus. Et l'économie, elle prime sur tout le reste, notamment l'écologie et la santé de la population. C'est d'ailleurs contre cette réalité que les Chiliens se sont soulevés en octobre 2019 quand la révolution sociale a précipité tout le pays dans un processus d'écriture d'une nouvelle constitution. C'est donc l'heure du changement, et aussi pour Engie. L'énergéticien vient d'annoncer que ses trois dernières centrales à charbon au Chili ne seront pas fermées, mais reconverties. Les trois se trouvent à Mejillones. Deux seront reconverties à la biomasse et la plus récente, ouverte en 2019, au gaz naturel. Côté énergie renouvelable, Engie est en pleine expansion. Ils ont annoncé un plan de développement de 2000 MW d'ici à 2025 en solaire et photovoltaïque. Avant ces annonces, faites fin avril de cette année, j'ai échangé avec le directeur d'Engie au Chili, dans ses bureaux d'un gratte-ciel de Santiago au nom assez évocateur, la tour Titaner.
Axel, Marion.
Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Así?
Así.
Oui, pas de temps qui court.
Exactement.
Donc mon nom est Axel Levesque, je suis belge, 49 ans, et je suis depuis 6 ans maintenant le directeur général de Engie Energia Chile, et je suis en plus le responsable de tout le business d'Engie sur le Chili.
Pendant la COP21, en 2015, Engie a rejoint l'Alliance mondiale pour la sortie du charbon, et elle s'est engagée à sortir du charbon en 2030. Et la nouvelle centrale à Mejillones, elle, a ouvert en 2019. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Je pense qu'il y a beaucoup, Comment est-ce que je vais expliquer ça? C'est le développement d'une centrale au charbon, ça prend beaucoup de temps. Et donc le projet en lui-même, je dirais que c'est un projet qui était développé à partir de 2008-2009 probablement. Et puis quand en 2012-2013, le gouvernement, qui était en 2012-2013, il faut bien se mettre dans le contexte du pays, la seule manière d'avoir de l'énergie supplémentaire, c'était ou importer plus de gaz LNG, qui est extrêmement cher, ou alors faire du charbon. C'était l'époque où le fameux projet Hidroaysén, qui était un méga projet dans le sud du Chili, était abandonné. Et donc le gouvernement s'est retrouvé du jour au lendemain, disons, face à un mur avec un risque de manque de génération pour accompagner sa croissance. Donc de nouveau, n'oublions pas, on parle du Chili, le Chili avait une croissance à cette époque-là de l'ordre de 3, 4, 5% dépendant des années. Et donc le gouvernement, il a fait, comme on dirait en français, un peu le tour des popotes de qu'est-ce qui était disponible comme gros projet pour accompagner la croissance, et nous a encouragé, disons, en organisant un grand appel d'offres de fourniture d'énergie pour les grosses sociétés de distribution. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons participé à cet appel d'offres. Sur base de cette centrale, nous avons fait une offre au gouvernement pour fournir de l'électricité sur le long terme. Cette offre a été acceptée. Et à partir du moment où ça devient une obligation contractuelle, nous avons construit la centrale parce que de nouveau le gouvernement nous a demandé de le faire. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que nous avons besoin d'une fourniture d'énergie pour offrir, donc, ou pour remplir nos obligations par rapport à ces contrats qui nous lient aux sociétés de distribution d'électricité. Mais ça ne veut pas dire que les centrales ne puissent pas être converties à un moment.
Et d'où vient le gaz utilisé à Mejillones? Parce qu'il y a une centrale combinée qui fonctionne à gaz et à diesel, et vous avez aussi une plateforme de gaz naturel liquéfié, le fameux LNG. D'où vient ce gaz utilisé dans la baie?
Aujourd'hui, il vient, je dirais, pratiquement intégralement des États-Unis. Donc si on repart avant 2015-2016, il venait d'Égypte, du Qatar. Et puis avec le boom du shale gas des États-Unis, avec les États-Unis qui sont devenus un exportateur important de gaz naturel, je dirais que depuis 2015-16, notre gaz vient des États-Unis.
Et de quel type d'extraction de gaz?
Ça vient d'un peu partout des États-Unis. Le nôtre vient de terminaux qui sont au Texas.
Et est-ce qu'il y aurait du gaz de schiste dans ce gaz?
Alors, je pense que oui.
El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está.
En 2025, Engie aura donc reconverti sa plus récente centrale au gaz naturel. Les ONG continuent à exiger une fermeture définitive et pointent du doigt que le gaz naturel reste une énergie fossile et que le gaz de schiste fait l'objet d'un moratoire en France. Autrement dit, c'est interdit de l'exploiter sur le territoire français. Engie est une entreprise française dont le principal actionnaire est encore l'État français et ils viennent de renoncer à la signature d'un contrat d'importation de gaz de schiste américain vers la France en déclarant qu'il est incompatible avec ses préoccupations environnementales. Est-ce que ces préoccupations ne valent pas pour le Chili ? Les ONG comme Reclaim Finance se posent la question. Presque 50% du mix électrique aujourd'hui au Chili provient du renouvelable. La transition est donc bien enclenchée. Mais le pilier réduction de la consommation n'est pas vraiment dans la stratégie. La tendance au Chili est plutôt à l'augmentation de la production et de la consommation. Et pas pour le consommateur commun, mais pour les mines du désert. 61% de la consommation finale d'électricité va aujourd'hui à l'activité minière et industrielle. Une activité minière qui s'amplifie parce que le désert d'Atacama regorge de matières premières indispensables à la transition énergétique. Parmi eux, le précieux lithium dont les Européens ont grandement besoin pour les batteries de leurs voitures électriques, entre autres. Pour les ONG, comme Chile Sustentable, le chemin vers le renouvelable est une bonne nouvelle, mais pas à cette échelle et pas dans l'objectif d'alimenter l'industrie minière. Ce qu'elle prône, c'est un vrai changement de paradigme qui, aujourd'hui, réside dans l'espoir de la nouvelle constitution qui s'écrira dans les prochains mois au Chili.
Vulgar, cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta crítica.
Une zone de sacrifice au Chili, c'était un reportage de Marion Esnault réalisé par François Porcheron. Francis Perrin, je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, et chercheur associé au Policy Center for the New South. Alors, comment est-ce que vous réagissez à ce reportage ?
C'est un reportage extrêmement intéressant. Et je trouve que, et notamment, alors j'ai oublié le prénom de l'une des personnes qui est interrogée par votre journaliste, quand il parle, il dit à un moment que son père... Donc c'est intéressant en termes de conflit de génération. Son père a essayé d'attirer justement des investissements industriels dans cette région. Et lui, il en voit les problèmes, les impacts négatifs. Donc ça montre bien qu'au sein d'un même pays, en l'occurrence même d'une même famille, on peut avoir des opinions extrêmement divergentes sur les atouts, les avantages, les inconvénients de ce développement, d'un certain type de développement, parce qu'il y a développement et développement, évidemment. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que, là encore, à un moment, il y a une phrase qui est dite par cette personne donc, qui travaille au niveau associatif pour changer les choses, et qui dit en substance « il y a eu un avant et un après l'industrialisation ». Et le mot « industrialisation » me semble important. Ce n'est pas seulement, bien sûr, la question d'Engie avec ses centrales thermiques qui sont un des éléments du problème dans cette région, c'est l'industrialisation. On sait que le Chili est un pays en développement, mais qui a une industrie notamment minière, notamment le cuivre, majeure depuis des dizaines d'années. Et lorsque vous avez un développement industriel, quels que soient les secteurs considérés, en l'occurrence l'industrie minière, le cuivre, vous avez besoin d'énormément d'énergie. Donc vous avez un besoin, évidemment, notamment d'électricité à travers ces centrales.
Alors on le disait tout à l'heure, hein, la transition énergétique est une nécessité, notamment pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et lutter donc contre les changements climatiques et garantir à l'humanité un avenir harmonieux sur la seule planète que l'on a pour l'instant habitable dans le coin. Alors Engie a annoncé depuis que le reportage a été fait la conversion de ces centrales à charbon en centrales qui fonctionneront au gaz, a priori issu du gaz de schiste américain, et à la biomasse, a priori ça devrait être du bois. Est-ce que c'est vraiment cela, la transition énergétique ? Est-ce que substituer du gaz de schiste à du charbon, c'est une bonne nouvelle pour le climat ?
Alors, d'abord, je dirais que ce qui me semble positif, c'est la décision annoncée par Engie, vous l'avez rappelé donc tout récemment, à la fin avril 2021, de dire au Chili, nous allons arrêter la production d'électricité à partir du charbon à horizon 2025. Parce qu'avant, et il n'y a pas si longtemps, il était question d'horizons plus lointains. On parlait parfois de 2030, de 2040. Et maintenant, il y a un cap qui est fixé. Alors évidemment, il faudra le respecter, qui est 2025. 2025, en termes énergétiques, c'est demain. L'objectif, quand vous dites ça, bien sûr, ça veut dire que vous allez arrêter ou convertir des centrales au charbon, mais qu'il faut continuer à fournir de l'électricité au pays qui en a besoin. Donc, le plan d'Engie consiste à dire... Les anciennes centrales, on va les fermer. Les centrales les plus récentes, on va les convertir soit au gaz, soit on utilisera de la biomasse. Et par ailleurs, on développera deux choses, des projets d'énergie renouvelable et des premiers projets, ça on est encore dans les balbutiements, en termes d'hydrogène. Donc le plan d'Engie me semble assez, d'une part très ambitieux, nous sommes en 2021, nous parlons de 2025, assez global, puisqu'il y a à la fois dans ce plan la fermeture de centrales et la conversion de centrales, des projets renouvelables, des projets au gaz, des projets biomasse. Donc je pense que c'est ambitieux, et il faudra voir dans les années qui viennent, comment est-ce que le calendrier très ambitieux est tenu. Mais il est certain qu'il ne suffirait pas de dire « voilà, je ferme les centrales au charbon et puis je vous dis au revoir et je rentre à Paris La Défense ».
Mais c'est toute la complexité de la période dans laquelle nous sommes en ce moment. C'est-à-dire que voir des centrales à charbon fermées ou être adaptées à, pour un fonctionnement au gaz, par exemple, on se dit « mais ça reste encore des énergies fossiles, donc finalement, ça continue à émettre du CO2 alors que les scientifiques nous disent qu'il faut aller plus vite ». Mais comme vous le disiez, les populations, les industries ont besoin d'électricité. Alors récemment, le Fatih Birol, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, a alerté lors du sommet climat organisé par Joe Biden sur le décalage croissant entre les discours des décideurs politiques qui annoncent des réductions d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, des neutralités en carbone d'ici 2050. Et ce décalage entre ces discours et la vie réelle, on en a parlé la semaine dernière dans C'est pas du vent. Qu'en pensez-vous ?
Alors il est important que l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, s'exprime fortement sur ces sujets. Et depuis des années, l'AIE travaille énormément sur cette problématique capitale pour l'ensemble du monde qui est énergie-climat. Avec ce dilemme, le monde aura besoin de plus d'énergie dans les 30 prochaines années pour prendre l'horizon 2050 qui est souvent évoqué par rapport à l'accord de Paris. Le monde aura besoin de plus d'énergie parce qu'il y aura à peu près 2 milliards d'êtres humains en plus sur la Terre et le développement des pays émergents et en développement, donc des contraintes démographiques et économiques. Et en même temps, il faudra produire plus d'énergie avec beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Un sacré dilemme. Alors, je suis d'accord avec ce que disait M. Fatih Birol, avec peut-être une petite nuance. Il disait... Il y a un écart croissant entre les discours, les engagements et la réalité. Personnellement, j'enlèverais peut-être le mot croissant. Il y a un écart important, bien sûr. Le compte n'y est pas, c'est clair. Pour être dans la voie de la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle, ce qui est l'objectif de l'accord de Paris, je ne dirais pas forcément que cet écart croît. Je pense qu'il y a des choses importantes qui sont faites au niveau mondial. On fait de plus en plus de choses. Il ne faudrait pas, je pense, laisser se répandre l'idée que finalement, on ne fait que parler, on ne fait rien, ça me semble faux. Mais il est certain que nous ne sommes pas encore sur la trajectoire qui nous permettrait de dire de façon sûre et sereine, ça y est, on est dans les clous de l'accord de Paris. Non, absolument pas. Il faut accélérer dans la bonne direction.
Alors, quelle solution ? Alors, évidemment, on ne peut pas... Ça serait l'objet, sans doute, d'un rapport de 600 pages, mais nous sommes à la radio, donc on peut donner quelques pistes. Quelles solutions avons-nous à notre disposition pour réellement enrayer les changements climatiques tout en continuant, comme vous le disiez, à consommer de l'énergie avec une croissance économique et une croissance démographique difficile quand même à enrayer ?
Je crois qu'il faudrait même un rapport de 6000 pages plutôt que de 600. Mais vous avez raison, nous n'aurons pas le temps de l'écrire pendant le cours de cette émission. Alors, quelques idées générales, mais qui me semblent clés. D'abord, développer, intensifier ce que l'on appelle l'efficacité énergétique. L'idée, c'est d'essayer d'utiliser de la façon la plus efficace possible l'énergie dont nous disposons. C'est ce qu'on appelait souvent en France avant les économies d'énergie, mais le mot n'est pas très bon, parce qu'on peut faire des économies d'énergie en revenant à la bougie. Et évidemment, ce n'est pas l'objet. Mais d'utiliser l'énergie dont nous disposons de façon la plus efficace. Deuxièmement, développer des énergies non carbonées, dont les énergies renouvelables, y compris hydroélectricité, le nucléaire dans certains cas, dans la bataille contre le changement climatique, tout ce qui est non carboné, à condition évidemment que ce soit sûr, peut avoir un rôle à jouer. Troisième point, essayer de substituer dans les centrales thermiques le gaz naturel au charbon. Certes, le gaz naturel est encore une énergie fossile, mais en termes d'émissions de CO2, c'est nettement mieux que le charbon. Et convertir une centrale au charbon ou centrale à gaz n'est pas quelque chose qui demande des progrès techniques révolutionnaires. On sait faire ça aujourd'hui, ça a un coût, comme toujours, mais ce n'est pas un coût qui est considérable. Donc on aura encore besoin d'énergie fossile, donc notamment le gaz naturel, pendant un certain temps. Nous avons également besoin de donner un prix au carbone. Si le carbone n'a pas de prix, pourquoi est-ce que des entreprises dépenseraient beaucoup d'argent pour réduire leurs émissions ? Si par contre le carbone a un prix, eh bien forcément tout le monde va se creuser la tête en se disant « qu'est-ce que je peux trouver pour réduire le plus possible mes émissions ?» Alors l'idéal serait d'avoir un prix du carbone au niveau mondial, on n'y arrivera pas. Mais si au moins on pouvait avoir des prix du carbone dans les grandes régions mondiales ou pour les pays les plus importants en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre, ce serait un progrès important, à condition que ce prix soit suffisamment élevé et un prix qui ait tendance à augmenter avec le temps pour envoyer un signal clair aux investisseurs et aux industriels et à l'économie en général. Et puis, il faut développer le captage, le stockage, l'utilisation du carbone, parce que nous allons continuer encore pendant un certain temps, parce qu'on ne peut pas s'en passer tout de suite, à consommer des énergies fossiles, donc il y aura des émissions notamment de CO2. L'objectif serait le plus possible que ces émissions de CO2 ne partent pas à chaque fois dans l'atmosphère, donc nous avons besoin aussi du captage, stockage et du carbone.
Vous savez que c'est très critiqué ça, le captage et le stockage du CO2, et est-ce qu'on sait faire vraiment aujourd'hui ?
Alors c'est très critiqué parce qu'on dit, mais si on fait ça, ça veut dire qu'on va continuer à consommer des énergies fossiles. Le problème c'est que de toute façon, pendant encore un certain temps, on va continuer à consommer des énergies fossiles puisqu'on ne peut pas se passer aujourd'hui et demain d'énergie qui représente plus de 80% de l'énergie consommée dans le monde. Donc soit on dit « ah, on ne veut absolument pas d'énergie fossile » et on va dans le mur, soit on dit « on va essayer de réduire la part des énergies fossiles mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, donc on a besoin du captage et du stockage du carbone ». Mais c'est un élément d'un ensemble de solutions, ce n'est pas la solution.
Merci beaucoup, Francis Perrin.
Merci beaucoup à vous.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous invite aussi à nous écrire, c'estpasduvent@rfi.fr. à nous retrouver sur les réseaux sociaux et à nous réécouter en podcast sur vos plateformes préférées. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure.